VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Ouagadougou, midi à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé hier la convocation d'un dialogue national pour discuter de l'organisation des futures élections et de l'avenir des institutions. Un extrait des propos du chef de l'État congolais.
Au-delà des nuances et des divergences, l'unanimité s'est formée autour de l'urgente nécessité d'aller à un dialogue national sans exclusion. Ayant accepté de donner une suite favorable à cet appel de la raison, comment devrait-on organiser au mieux les scrutins à venir dans notre pays? Fait-on, oui ou non, évoluer les institutions de la République? J'ai aussi arrêté que le dialogue national aura lieu du 11 au 15 juillet 2015.
Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 30 ans au pouvoir. Une grande partie de l'opposition congolaise qui soupçonne le chef de l'État de vouloir changer la constitution pour briguer un nouveau mandat en 2016 est contre ce dialogue national. La lutte contre la corruption, deux ex-diplomates tchadiens dans le collimateur de la justice américaine. Mahmoud Adam Béchir, ancien ambassadeur du Tchad aux États-Unis et au Canada, et son adjoint au moment des fêtes, Youssouf Hamid Takan, sont accusés d'avoir usé de leurs fonctions officielles pour aider la compagnie canadienne Griffith Energy International à obtenir des droits d'exploitation pétrolière au Tchad. Les deux diplomates auraient obtenu en échange des millions d'actions en bourse valant aujourd'hui des dizaines de millions de dollars que la justice américaine entend bien saisir. La réaction à N'Djamena du président de l'ONG Droits de l'Homme sans frontières, Daniel Dezombe Passalette, au micro de Timothée Donangmaï.
Les gens qui sont nommés, le plus souvent d'ailleurs, ils ne remplissent pas les critères pour être nommés à de telle ou telle autre fonction. Les critères de moralité, d'intégrité, ces critères-là sont bannis. Et quand ils arrivent, ils font souvent n'importe quoi.
Selon l'administration américaine, les deux hommes ont reçu 4 millions d'actions du groupe pétrolier canadien Griffith Energy International. Des actions qui ont atteint aujourd'hui une valeur de 34 millions de dollars. Comment cela est-ce possible?
Ces compagnies, quand elles quittent là-bas, elles ont peur de la loi de chez elles, et arrivées ici, elles trouvent toujours des gens pour corrompre parce qu'elles savent que, par exemple, dans des pays comme le Tchad où la corruption bat son plein, elles ont toujours des gens pour leur donner de l'argent, pour les surveiller, pour leur faire ceci, cela. C'est ce créneau-là que cette société a utilisé pour corrompre ces diplomates qu'on a envoyés pour représenter le Tchad. Là, vraiment, ça pose un problème de moralité, ça pose un problème d'intégrité. Quand vous voyez, par exemple, dans les ambassades à l'extérieur, ces nominations sont faites purement sur base de clientélisme, sur base de tribalisme, de régionalisme. Vous ne voyez pas les Tchadiens d'autre bord. Vous voyez les Tchadiens qui sont de la région du président de la République. Et puis, ils pensent que rien ne peut leur arriver du fait qu'ils appartiennent à telle ou telle autre origine. Rien ne peut leur arriver.
Cette affaire pose le problème du conflit d'intérêts chez les agents publics. Comment les autorités sur place luttent-elles contre le conflit d'intérêts?
Est-ce que ça représente une infraction au Tchad? Je n'en sais vraiment pas. Plutôt, les gens pensent que quand vous occupez une fonction, vous devez l'occuper de façon à vous enrichir de n'importe quelle façon. Vous ne tenez même pas compte du conflit d'intérêts. Ça, on n'en parle pas. Quand bien même qu'on sait que le conflit d'intérêts, ça cause un problème. Ah, vraiment, ça ne représente rien aux yeux des autorités tchadiennes. Mais pour peut-être satisfaire les Américains, voilà pourquoi on a pris une fonction, on a relevé celui-là qui était ici, qui occupait autre fonction. Mais en réalité, ça ne leur dit rien. Elles sont prêtes à reprendre.
Daniel Dezombe Passalette, président de l'ONG Droits de l'Homme sans frontières au Tchad. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari est lui aussi déterminé à lutter contre la corruption dans le secteur pétrolier, fléau qui coûte des milliards de dollars chaque année à l'État fédéral nigérian en redevances non payées par les gouverneurs. Au micro de Nathalie Barge, plus de détails avec le professeur nigérian Tundono Amosu, joint à Lagos.
Ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à ces gens-là. Donc, il les connaît et c'est justement la raison pour laquelle il a commencé par limoger le conseil d'administration. Et je crois qu'il y a d'autres mesures qui vont suivre. Bien évidemment, il y aura une résistance assez forte de la part de ceux qui ont beaucoup bénéficié de l'ancien régime. Mais je crois que quand même, le président Buhari, il est bien décidé à gagner cette bataille.
Est-ce qu'il a le soutien de beaucoup de gouverneurs?
Franchement, je ne sais pas. Parce que vous savez que les gouverneurs, ce sont pour la plupart ceux qui ont pleinement bénéficié. Les gouverneurs, en principe, ce sont des gens pratiquement intouchables tant qu'ils restent au pouvoir.
Le professeur nigérian Tundonu Amosu joint à Lagos.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les djihadistes du Mali menacent de frapper la Mauritanie et la Côte d'Ivoire après avoir étendu leurs attaques jusqu'aux frontières de ces deux pays qu'ils accusent de coopérer avec les ennemis de l'islam. Idrissa Sédoudia.
Ismaël Khalil, membre d'Ansar Dine, a dit à l'AFP « Nous revendiquons l'attaque de Nara et celle de Fakola, terre d'islam, pour punir les ennemis de l'islam ». Le prédicateur radical malien a ajouté « Nous allons multiplier les attaques en Côte d'Ivoire, au Mali et en Mauritanie, des pays qui travaillent avec les ennemis de l'islam ». L'attaque de samedi contre un camp militaire à Nara, dans le centre du Mali, près de la frontière mauritanienne, a fait 3 tués parmi les militaires maliens et 9 chez les assaillants, selon le gouvernement. Dimanche à Fakola, dans le sud, à 20 km du territoire ivoirien, des bâtiments administratifs et de sécurité ont été saccagés. Pour rappel, Ansar Dine fait partie des groupes djihadistes qui ont contrôlé le nord du Mali de mars à avril 2012 jusqu'au lancement en janvier 2013 d'une intervention militaire internationale à l'initiative de la France.
Au Burkina Faso, 7 partis politiques, dont celui du président déchu Blaise Compaoré, ont attaqué mardi devant la justice ouest-africaine le nouveau code électoral du Burkina, qui leur interdit de briguer des postes aux élections d'octobre. Les demandeurs estiment que ce code viole leurs droits civiques. La cour de la CDAO a indiqué qu'elle rendrait sa décision le 13 juillet. Burkina Faso toujours, une dizaine de militaires du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, mis aux arrêts hier suite au tir de lundi soir à Ouagadougou qui avait suscité une forte émotion dans la capitale. D'où viennent ces sautes d'humeur de la part de l'unité d'élite chargée de la protection des présidents dont faisait auparavant partie l'actuel Premier ministre Isaac Zida? Les explications du rédacteur en chef du quotidien burkinabé L'Événement, Newton Ahmed Barry, au micro de Claire Morin-Gibourg.
Actuellement, il y a une médiation qui est en train d'être menée par l'ancien chef d'État burkinabé, Jean-Baptiste Ouédraogo, en accord avec le chef d'État de la transition, Michel Kafando, autour évidemment du différend qui oppose le RSP, donc le régiment de sécurité présidentielle, et le Premier ministre Zida. Aujourd'hui, le RSP met sérieusement en balance évidemment le poste de Premier ministre de Zida. Il revendique 2 choses importantes en disant d'abord qu'il ne veut plus des militaires au niveau de la gouvernance de la transition et donc Zida devrait démissionner et avec lui tous les militaires qui sont au niveau du gouvernement. Il semble que pour eux c'est la solution à la crise actuelle.
Et le retour sur le devant de la scène de l'ancien président Ouédraogo, qu'en pensez-vous?
Évidemment, c'est un personnage qui est beaucoup sollicité en situation de crise. En février, c'était lui également qui avait été sollicité pour essayer d'arbitrer le différend entre le RSP et Zida. Cette fois encore, c'est lui qui est là. Évidemment, je pense que comme c'est un ancien militaire, donc un officier supérieur à la retraite, probablement que les éléments l'écoutent.
Selon votre analyse, est-ce que la situation pourrait dégénérer?
Il n'est pas exclu qu'elle dégénère si une solution n'est pas trouvée dans les jours à venir, très rapidement d'ailleurs, parce que les éléments du RSP sont dans une nervosité qui peut conduire à tous les dérapages possibles. D'ailleurs, ce matin, ils ont fait la ronde d'un certain nombre de médias en disant très clairement qu'ils allaient procéder à l'arrestation du Premier ministre parce qu'il s'était illicitement enrichi. Lui est le ministre de l'administration territoriale qui se trouve aussi être un militaire, un colonel en l'occurrence.
Newton Ahmed Barry, rédacteur en chef du quotidien burkinabé L'Événement à Ouagadougou. Égypte, la filiale locale du groupe État islamique revendique la vague d'attaques aujourd'hui dans le Sinaï qui a coûté la vie à au moins 20 militaires égyptiens selon le Caire. Ansar Beit al-Maqdes dit avoir attaqué 15 différents checkpoints dans la région. Et pour terminer, les États-Unis et Cuba ont convenu de rouvrir leurs ambassades dans leurs pays respectifs après plus de 50 ans de rupture diplomatique. Le président Barack Obama devrait annoncer cette décision aujourd'hui à la Maison-Blanche. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.